Lettre 55. Rika à Ibben, à Smyrne. Chez les peuples d'Europe, le premier quart d'heure du mariage aplanit toutes les difficultés. Les dernières faveurs sont toujours de même date que la bénédiction nuptiale. Les femmes n'y font point comme nos persanes, qui disputent le terrain quelquefois des mois entiers. Il n'y a rien de s'y plaigner. Si elles ne perdent rien, c'est qu'elles n'ont rien à perdre. Mais on sait toujours, chose honteuse, le moment de leur défaite, et sans consulter les astres, on peut prédire au juste l'heure de la naissance de leurs enfants. Les Français ne parlent presque jamais de leurs femmes. C'est qu'ils ont peur d'en parler devant des gens qui les connaissent mieux qu'eux. Il y a parmi eux des hommes très malheureux que personne ne console. Ce sont les maris jaloux. Il y en a que tout le monde hait. Ce sont les maris jaloux. Il y en a que tous les hommes méprisent. Ce sont encore les maris jaloux. Aussi n'y a-t-il point de pays où ils soient en si petit nombre que chez les Français. Leur tranquillité n'est pas fondée sur la confiance qu'ils ont en leurs femmes. C'est au contraire sur la mauvaise opinion qu'ils en ont. Toutes les sages précautions des Asiatiques, les voiles qui les couvrent, les prisons où elles sont détenues, la vigilance des eunuques, leur paraissent des moyens plus propres à exercer l'industrie de ce sexe qu'à la lasser. Ici, les maris prennent leur parti de bonne grâce et regardent les infidélités comme des coups d'une étoile inévitable. Un mari qui voudrait seul posséder sa femme serait regardé comme un perturbateur de la joie publique, et comme un insensé qui voudrait jouir de la lumière du soleil à l'exclusion des autres hommes. Ici, un mari qui aime sa femme est un homme qui n'a pas assez de mérite pour se faire aimer d'une autre, qui abuse de la nécessité de la loi pour suppléer aux agréments qui lui manquent, qui se sert de tous ses avantages au préjudice d'une société entière, qui s'approprie ce qui ne lui avait été donné qu'en engagement, et qui agit autant qu'il est en lui pour renverser une convention tacite qui fait le bonheur de l'un et de l'autre sexe. Ce titre de mari d'une jolie femme, qui se cache en Asie avec tant de soin, se porte ici sans inquiétude. On se sent en état de faire diversion partout. Un prince se console de la perte d'une place par la prise d'une autre. Dans le temps que le Turc nous prenait Bagdad, n'enlevions-nous pas aux Mongols la forteresse de Kandahar? Un homme qui, en général, souffre les infidélités de sa femme n'est point désapprouvé. Au contraire, on le loue de sa prudence. Il n'y a que les cas particuliers qui déshonorent. Ce n'est pas qu'il n'y ait des dames vertueuses, et on peut dire qu'elles sont distinguées. Mon conducteur me les faisait toujours remarquer. Mais elles étaient toutes si laides qu'il faut être un saint pour ne pas haïr la vertu. Après ce que je t'ai dit des mœurs de ce pays, tu t'imagines facilement que les Français ne s'y piquent guère de constance. Ils croient qu'il est aussi ridicule de jurer à une femme qu'on l'aimera toujours que de soutenir qu'on se portera toujours bien ou qu'on sera toujours heureux. Quand ils promettent à une femme qu'ils l'aimeront toujours, ils supposent qu'elle, de son côté, leur promet d'être toujours aimable, et si elle manque à sa parole, ils ne se croient plus engagés à la leur. De Paris, le 7 de la lune de Zilkadé, 1714. Lettre 56. Usbek à Ibben, à Smyrne. Le jeu est très en usage en Europe. C'est un état que d'être joueur. Ce seul titre tient lieu de naissance, de bien, de probité. Il met tout homme qui le porte au rang des honnêtes gens, sans examen. Quoiqu'il n'y ait personne qui ne sache qu'en jugeant ainsi, il s'est trompé très souvent. Mais on est convenu d'être incorrigible. Les femmes y sont surtout très adonnées. Il est vrai qu'elles ne s'y livrent guère dans leur jeunesse que pour favoriser une passion plus chère. Mais, à mesure qu'elles vieillissent, leur passion pour le jeu semble rajeunir, et cette passion remplit tout le vide des autres. Elles veulent ruiner leur mari, et pour y parvenir, elles ont des moyens pour tous les âges, depuis la plus tendre jeunesse jusqu'à la vieillesse la plus décrépite. Les habits et les équipages commencent le dérangement, la coquetterie l'augmente, le jeu l'achève. J'ai vu souvent 9 ou 10 femmes, ou plutôt 9 ou 10 siècles rangés autour d'une table. Je les ai vus dans leurs espérances, dans leurs craintes, dans leur joie, surtout dans leur fureur. Tu aurais dit qu'elles n'auraient jamais le temps de s'apaiser et que la vie allait les quitter avant leur désespoir. Tu aurais été en doute si ceux qu'elles payaient étaient leurs créanciers ou leurs légataires. Il semble que notre saint prophète est eu principalement en vue de nous priver de tout ce qui peut troubler notre raison. Il nous a interdit l'usage du vin, qui la tient ensevelie. Il nous a, par un précepte exprès, défendu les jeux de hasard. Et quand il lui a été impossible d'ôter la cause des passions, il les a amorties. L'amour, parmi nous, ne porte ni trouble ni fureur. C'est une passion languissante qui laisse notre âme dans le calme. La pluralité des femmes nous sauve de leur empire. Elle tempère la violence de nos désirs. Lettre 57. Usbek à Redi, à Venise. Les libertins entretiennent ici un nombre infini de filles de joie, et les dévots, un nombre innombrable de dervis. Ces dervis font 3 vœux, d'obéissance, de pauvreté et de chasteté. On dit que le premier est le mieux observé de tous. Quant au second, je te réponds qu'il ne l'est point. Je te laisse à juger du troisième. Mais quelque riches que soient ces dervis, ils ne quittent jamais la qualité de pauvre. Notre glorieux sultan renoncerait plutôt à ces magnifiques et sublimes titres. Ils ont raison, car ce titre de pauvre les empêche de l'être. Les médecins et quelques-uns de ces dervis qu'on appelle confesseurs sont toujours ici ou trop estimés ou trop méprisés. Cependant, on dit que les héritiers s'accommodent mieux des médecins que des confesseurs. Je fus l'autre jour dans un couvent de ces dervis. Un d'entre eux, vénérable par ses cheveux blancs, m'accueillit fort honnêtement. Il me fit voir toute la maison, nous entrâmes dans le jardin, et nous nous mîmes à discourir. « Mon père, lui dis-je, quel emploi avez-vous dans la communauté ?»« Monsieur, me répondit-il avec un air très content de ma question, je suis casuiste. »« Casuiste ? » repris-je. « Depuis que je suis en France, je n'ai pas ouï parler de cette charge. » « Quoi? Vous ne savez pas ce que c'est qu'un casuiste? Eh bien, écoutez, je vais vous en donner une idée qui ne vous laissera rien à désirer. Il y a 2 sortes de péchés, de mortels, qui excluent absolument du paradis, et de véniels, qui offensent Dieu à la vérité, mais ne l'irritent pas au point de nous priver de la béatitude. Or, tout notre art consiste à bien distinguer ces 2 sortes de péchés. Car, à la réserve de quelques libertins, tous les chrétiens veulent gagner le paradis. Mais il n'y a guère personne qui ne le veuille gagner à meilleur marché qu'il est possible. Quand on connaît bien les péchés mortels, on tâche de ne pas commettre de cela, et l'on fait son affaire. Il y a des hommes qui n'aspirent pas à une si grande perfection, et comme ils n'ont point d'ambition, ils ne se soucient pas des premières places. Aussi entrent-ils en paradis le plus juste qu'ils peuvent. Pourvu qu'ils y soient, cela leur suffit. Leur but est de n'en faire ni plus ni moins. Ce sont des gens qui ravissent le ciel plutôt qu'ils ne l'obtiennent, et qui disent à Dieu « Seigneur, j'ai accompli les conditions à la rigueur. Vous ne pouvez vous empêcher de tenir vos promesses. Comme je n'en ai pas fait plus que vous n'en avez demandé, je vous dispense de m'en accorder plus que vous n'en avez promis. » Nous sommes donc des gens nécessaires, monsieur. Ce n'est pas tout pourtant. Vous allez bien voir autre chose. L'action ne fait pas le crime. C'est la connaissance de celui qui la commet. celui qui fait un mal, tandis qu'il peut croire que ce n'en est pas un, est en sûreté de conscience. Et comme il y a un nombre infini d'actions équivoques, un casuiste peut leur donner un degré de bonté qu'elles n'ont point en les déclarant bonnes. Et pourvu qu'ils puissent persuader qu'elles n'ont pas de venin, ils le leur ôtent tout entier. Je vous dis ici le secret d'un métier où j'ai vieilli. Je vous en fais voir les raffinements. Il y a un tour à donner à tout, même aux choses qui en paraissent les moins susceptibles. « Mon père, lui dis-je, cela est fort bon, mais comment vous accommodez-vous avec le ciel? Si le Sophie avait à sa cour un homme qui fit à son égard ce que vous faites contre votre Dieu, qui mit de la différence entre ses ordres et qui apprit à ses sujets dans quel cas ils doivent les exécuter et dans quel autre ils peuvent les violer, il le ferait empaler sur l'heure. » Je saluai mon dervis et le quittai sans attendre sa réponse. De Paris, le 23 de la lune de Maharram, 1714. Lettre 58. Rica à Reddy, à Venise. À Paris, mon cher Reddy, il y a bien des métiers. Là, un homme obligeant vient, pour un peu d'argent, vous offrir le secret de faire de l'or. Un autre vous promet de vous faire coucher avec les esprits aériens, pourvu que vous soyez seulement 30 ans sans voir de femme. Vous trouverez encore des devins si habiles qu'ils vous diront toute votre vie, pourvu qu'ils aient seulement eu 15 minutes de conversation avec vos domestiques. Des femmes adroites font de la virginité une fleur qui fleurit et renaît tous les jours, et se cueille la 100e fois plus douloureusement que la première. Il y en a d'autres qui, réparant par la force de leur art toutes les injures du temps, savent rétablir sur un visage une beauté qui chancelle, et même rappeler une femme du sommet de la vieillesse pour la faire redescendre jusqu'à la jeunesse la plus tendre. Tous ces gens-là vivent, ou cherchent à vivre, dans une ville qui est la mère de l'invention. Les revenus des citoyens ne s'y affairment point. Ils ne consistent qu'en esprit et en industrie, chacun à la sienne, qu'il fait valoir de son mieux. Qui voudrait nombrer tous les gens de loi qui poursuivent le revenu de quelques mosquées, aurait aussitôt compté les sables de la mer et les esclaves de notre monarque. Un nombre infini de maîtres de langue, d'art et de science enseignent ce qu'ils ne savent pas, et ce talent est bien considérable, car il ne faut pas beaucoup d'esprit pour montrer ce qu'on sait, mais il en faut infiniment pour enseigner ce qu'on ignore. On ne peut mourir ici que subitement. La mort ne saurait autrement exercer son empire, car il y a dans tous les coins des gens qui ont des remèdes infaillibles contre toutes les maladies imaginables. Toutes les boutiques sont tendues de filets invisibles où se vont prendre tous les acheteurs. L'on en sort pourtant quelquefois à bon marché. Une jeune marchande cajole un homme 1 heure entière pour lui faire acheter un paquet de cure-dents. Il n'y a personne qui ne sorte de cette ville plus précautionné qu'il n'y est entré. À force de faire part de son bien aux autres, on apprend à le conserver. Seul avantage des étrangers dans cette ville enchanteresse. De Paris, le 10 de la lune de Safar, 1714. Lettre 59. Rica à Usbek. J'étais l'autre jour dans une maison où il y avait un cercle de gens de toute espèce. Je trouvai la conversation occupée par 2 vieilles femmes qui avaient en vain travaillé tout le matin à se rajeunir. « Il faut avouer, disait une d'entre elles, que les hommes d'aujourd'hui sont bien différents de ceux que nous voyions dans notre jeunesse. Ils étaient polis, gracieux, complaisants, mais à présent, je les trouve d'une brutalité insupportable. Tout est changé, dit pour lors un homme qui paraissait accablé de gouttes. Le temps n'est plus comme il était. Il y a 40 ans, tout le monde se portait bien. On marchait, on était gai, On ne demandait qu'à rire et à danser. À présent, tout le monde est d'une tristesse insupportable. » Un moment après, la conversation tourna du côté de la politique. « Morbleu !» dit un vieux seigneur. « L'État n'est plus gouverné. Trouvez-moi à présent un ministre comme M. Colbert. Je le connaissais beaucoup, ce M. Colbert. Il était de mes amis. Il me faisait toujours payer de mes pensions avant qui que ce fût. Le bel ordre qu'il y avait dans les finances. Tout le monde était à son aise. Mais aujourd'hui, je suis ruiné. » « Monsieur, dit pour lors un ecclésiastique, vous parlez là du temps le plus miraculeux de notre invincible monarque. Y a-t-il rien de si grand que ce qu'il faisait alors pour détruire l'hérésie ? Eh, comptez-vous pour rien l'abolition des duels ? Dit d'un air content un autre homme qui n'avait point encore parlé. « La remarque est judicieuse, me dit quelqu'un à l'oreille. Cet homme est charmé de Lady, et il l'observe si bien qu'il y a 6 mois qu'il reçut 100 coups de bâton pour ne pas le violer. » Il me semble, Usbek, que nous ne jugeons jamais des choses que par un retour secret que nous faisons sur nous-mêmes. Je ne suis pas surpris que les nègres peignent le diable d'une blancheur éblouissante et leur dieu noir comme du charbon. Que la Vénus de certains peuples ait des mamelles qui lui pendent jusque aux cuisses, et qu'enfin tous les idolâtres aient représenté leur dieu avec une figure humaine, et leur aient fait part de toutes leurs inclinations. On a dit fort bien que, si les triangles faisaient un dieu, ils lui donneraient 3 côtés. Mon cher Usbek, quand je vois des hommes qui rampent sur un atome, c'est-à-dire la Terre, qui n'est qu'un point de l'univers, se proposer directement pour modèle de la Providence, je ne sais comment accorder tant d'extravagance avec tant de petitesse. » De Paris, le 14 de la lune de Safar, 1714. Lettre 60. Usbek à Ibn, à Smyrne. « Tu me demandes s'il y a des Juifs en France. Sache que, partout où il y a de l'argent, il y a des Juifs. » Tu me demandes ce qu'ils y font? Précisément ce qu'ils font en Perse. Rien ne ressemble plus à un juif d'Asie qu'un juif européen. Ils font paraître chez les chrétiens, comme parmi nous, une obstination invincible pour leur religion, qui va jusque à la folie. La religion juive est un vieux tronc qui a produit 2 branches qui ont couvert toute la terre. Je veux dire le mahométisme et le christianisme. Ou plutôt, c'est une mère qui a engendré 2 filles qui l'ont accablée de 1000 plaies. Car en fait de religion, les plus proches sont les plus grandes ennemies. Mais quelque mauvais traitement qu'elle en ait reçu, elle ne laisse pas de se glorifier de les avoir mises au monde. Elle se sert de l'une et de l'autre pour embrasser le monde entier, tandis que, d'un autre côté, sa vieillesse vénérable embrasse tous les temps. Les Juifs se regardent donc comme la source de toute sainteté et l'origine de toute religion. Ils nous regardent, au contraire, comme des hérétiques qui ont changé la loi, ou plutôt comme des Juifs rebelles. Si le changement s'était fait insensiblement, ils croient qu'ils auraient été facilement séduits. Mais comme il s'est fait tout à coup et d'une manière violente, comme ils peuvent marquer le jour et l'heure de l'une et de l'autre naissance, ils se scandalisent de trouver en nous des âges et se tiennent fermes à une religion que le monde même n'a pas précédée. Ils n'ont jamais eu dans l'Europe un calme pareil à celui dont ils jouissent. On commence à se défaire parmi les chrétiens de cet esprit d'intolérance qui les animait. On s'est mal trouvé en Espagne de les avoir chassés, et en France d'avoir fatigué des chrétiens dont la croyance différait un peu de celle du prince. On s'est aperçu que le zèle pour les progrès de la religion est différent de l'attachement qu'on doit avoir pour elle, et que pour l'aimer et l'observer, il n'est pas nécessaire de haïr et de persécuter ceux qui ne l'observent pas. Il serait à souhaiter que nos musulmans pensassent aussi sensément sur cet article que les chrétiens, que l'on pût, une bonne fois, faire la paix entre Ali et Abu Bekr, et laisser à Dieu le soin de décider des mérites de ces saints prophètes. Je voudrais qu'on les honorât par des actes de vénération et de respect, et non pas par de vaines préférences, et qu'on cherchât à mériter leur faveur, quelque place que Dieu leur ait marquée, soit à sa droite, ou bien sous le marchepied de son trône. De Paris, le 18 de la lune de Safar, 1714. Lettre 61. Usbek à Redi, à Venise. J'étais l'autre jour dans une église fameuse qu'on appelle Notre-Dame. Pendant que j'admirais ce superbe édifice, j'eus l'occasion de m'entretenir avec un ecclésiastique que la curiosité y avait attiré comme moi. La conversation tomba sur la tranquillité de sa profession. « La plupart des gens, me dit-il, envient le bonheur de notre état, et ils ont raison. Cependant, il a ses désagréments. Nous ne sommes point si séparés du monde que nous n'y soyons appelés en mille occasions. Là, nous avons un rôle très difficile à soutenir. Les gens du monde sont étonnants. Ils ne peuvent souffrir notre approbation ni nos censures. Si nous les voulons corriger, ils nous trouvent ridicules. Si nous les approuvons, ils nous regardent comme des gens au-dessous de notre caractère. Il n'y a rien de si humiliant que de penser qu'on a scandalisé les impies même. Nous sommes donc obligés de tenir une conduite équivoque et d'en imposer aux libertins, non pas par un caractère décidé, mais par l'incertitude où nous les mettons de la manière dont nous recevons leurs discours. Il faut avoir beaucoup d'esprit pour cela. Cet état de neutralité est difficile. Les gens du monde, qui hasardent tout, qui se livrent à toutes leurs saillies, qui, selon le succès, les poussent ou les abandonnent, réussissent bien mieux. Ce n'est pas tout. Cet état si heureux et si tranquille, que l'on vante tant, nous ne le conservons pas dans le monde. Dès que nous y paraissons, on nous fait disputer. On nous fait entreprendre, par exemple, de prouver l'utilité de la prière à un homme qui ne croit pas en Dieu, la nécessité du jeûne à un autre qui a nié toute sa vie l'immortalité de l'âme. L'entreprise est laborieuse, et les rieurs ne sont pas pour nous. Il y a plus. Une certaine envie d'attirer les autres dans nos opinions nous tourmente sans cesse, et est, pour ainsi dire, attaché à notre profession. Cela est aussi ridicule que si on voyait les Européens travailler en faveur de la nature humaine à blanchir le visage des Africains. Nous troublons l'État. Nous nous tourmentons nous-mêmes pour faire recevoir des points de religion qui ne sont point fondamentaux. Et nous ressemblons à ce conquérant de la Chine qui poussa ses sujets à une révolte générale pour les avoir voulu obliger à se rogner les cheveux ou les ongles. Le zèle même que nous avons pour faire remplir à ceux dont nous sommes chargés les devoirs de notre sainte religion est souvent dangereux, et il ne saurait être accompagné de trop de prudence. Un empereur, nommé Théodose, fit passer au fil de l'épée tous les habitants d'une ville, même les femmes et les enfants. S'étant ensuite présenté pour entrer dans une église, un évêque nommé Ambroise lui fit fermer les portes, comme à un meurtrier et un sacrilège, et en cela il fit une action héroïque. Cet empereur, ayant ensuite fait la pénitence qu'un tel crime exigeait, étant admis dans l'église, alla se placer parmi les prêtres. Le même évêque l'en fit sortir, et en cela il fit l'action d'un fanatique. Tant il est vrai que l'on doit se défier de son zèle. Qu'importait à la religion ou à l'État que ce prince eût ou n'eût pas une place parmi les prêtres? De Paris, le 1er de la lune de Rébia, 1714. Lettre 62. Zélis à Usbek, à Paris. Ta fille ayant atteint sa 7e année, j'ai cru qu'il était temps de la faire passer dans les appartements inférieurs du sérail, et de ne point attendre qu'elle ait 10 ans pour la confier aux eunuques noirs. On ne saurait de trop bonne heure priver une jeune personne des libertés de l'enfance, et lui donner une éducation sainte dans les sacrés murs où la pudeur habite. Car je ne puis être de l'avis de ces mères qui ne renferment leurs filles que lorsqu'elles sont sur le point de leur donner un époux, qui, les condamnant au sérail, plutôt qu'elles ne les y consacrent, leur font embrasser violemment une manière de vie qu'elles auraient dû leur inspirer. Faut-il tout attendre de la force de la raison et rien de la douceur de l'habitude? C'est en vain que l'on nous parle de la subordination où la nature nous a mises. Ce n'est pas assez de nous la faire sentir. Il faut nous la faire pratiquer, afin qu'elle nous soutienne dans ce temps critique où les passions commencent à naître et à nous encourager à l'indépendance. Si nous n'étions attachés à vous que par le devoir, nous pourrions quelquefois l'oublier. Si nous n'y étions entraînés que par le penchant, peut-être un penchant plus fort pourrait l'affaiblir. Mais, quand les lois nous donnent à un homme, elles nous dérobent à tous les autres, et nous mettent aussi loin d'eux que si nous en étions à 100 000 lieues. La nature, industrieuse en faveur des hommes, ne s'est pas bornée à leur donner les désirs. Elle a voulu que nous en eussions nous-mêmes, et que nous fussions des instruments animés de leur félicité. Elle nous a mises dans le feu des passions pour les faire vivre tranquilles. S'ils sortent de leur insensibilité, elle nous a destinés à les y faire rentrer, sans que nous puissions jamais goûter cet état heureux où nous les mettons. Cependant, Usbek, ne t'imagine pas que ta situation soit plus heureuse que la mienne. J'ai goûté ici 1000 plaisirs que tu ne connais pas. Mon imagination a travaillé sans cesse à m'en faire connaître le prix. J'ai vécu, et tu n'as fait que languir. Dans la prison même où tu me retiens, je suis plus libre que toi. Tu ne saurais redoubler tes attentions pour me faire garder que je ne jouisse de tes inquiétudes, et tes soupçons, ta jalousie, tes chagrins, sont autant de marques de ta dépendance. Continue, cher Usbek. Fais veiller sur moi nuit et jour. Ne te fie pas même aux précautions ordinaires. Augmente mon bonheur en assurant le tien. Et sache que je ne redoute rien que ton indifférence. Du sérail d'Ispahan, le 2 de la lune de Rébia 1, 1714. Lettre 63. Rika à Usbek. A. Je crois que tu veux passer ta vie à la campagne. Je ne te perdais au commencement que pour 2 ou 3 jours, et en voilà 15 que je ne t'ai vu. Il est vrai que tu es dans une maison charmante, que tu y trouves une société qui te convient, que tu y raisonnes tout à ton aise. Il n'en faut pas davantage pour te faire oublier tout l'univers. Pour moi, je mène à peu près la même vie que tu m'as vu mener, je me répands dans le monde, et je cherche à le connaître. Mon esprit perd insensiblement tout ce qui lui reste d'asiatique et se plie sans effort aux mœurs européennes. Je ne suis plus si étonnée de voir dans une maison 5 ou 6 femmes avec 5 ou 6 hommes, et je trouve que cela n'est pas mal imaginé. Je le puis dire. Je ne connais les femmes que depuis que je suis ici. J'en ai plus appris dans 1 mois que je n'aurais fait en 30 ans dans un sérail. Chez nous, les caractères sont tous uniformes parce qu'ils sont forcés. On ne voit point les gens tels qu'ils sont, mais tels qu'on les oblige d'être. Dans cette servitude du cœur et de l'esprit, on n'entend parler que la crainte, qui n'a qu'un langage, et non pas la nature, qui s'exprime si différemment et qui paraît sous tant de formes. La dissimulation, cet art parmi nous si pratiqué et si nécessaire, est ici inconnu. Tout parle, tout se voit, tout s'entend. Le cœur se montre comme le visage. Dans les mœurs, dans la vertu, dans le vice même, on aperçoit toujours quelque chose de naïf. Il faut, pour plaire aux femmes, un certain talent différent de celui qui leur plaît encore davantage. Il consiste dans une espèce de badinage dans l'esprit qui les amuse en ce qu'ils semblent leur promettre à chaque instant ce qu'on ne peut tenir que dans de trop longs intervalles. Ce badinage, naturellement fait pour les toilettes, semble être parvenu à former le caractère général de la nation. On badine au conseil, on badine à la tête d'une armée, on badine avec un ambassadeur. Les professions ne paraissent ridicules qu'à proportion du sérieux qu'on y met. Un médecin ne le serait plus si ses habits étaient moins lugubres et s'il tuait ses malades en badinant. De Paris, le 10 de la lune de Rébia, 1714. Lettre 64. Le chef des eunuques noirs à Usbek, à Paris. Je suis dans un embarras que je ne saurais exprimer, magnifique seigneur. Le sérail est dans un désordre et une confusion épouvantables. La guerre règne entre tes femmes. Tes eunuques sont partagés. On n'entend que plaintes, que murmures, que reproches. Mes remontrances sont méprisées. Tout semble permis dans ce temps de licence, et je n'ai plus qu'un 20 titres dans le sérail. Il n'y a aucune de tes femmes qui ne se juge au-dessus des autres, par sa naissance, par sa beauté, par ses richesses, par son esprit, par ton amour, et qui ne fasse valoir quelques-uns de ses titres pour avoir toutes les préférences. Je perds à chaque instant cette longue patience avec laquelle, néanmoins, j'ai eu le malheur de les mécontenter toutes. Ma prudence, ma complaisance même, vertu si rare et si étrangère dans le poste que j'occupe, ont été inutiles. Veux-tu que je te découvre, magnifique seigneur, la cause de tous ces désordres? Elle est toute dans ton cœur et dans les tendres égards que tu as pour elle. Si tu ne me retenais pas la main, si au lieu de la voix des remontrances, tu me laissais celle des châtiments, si, sans te laisser attendrir à leurs plaintes et à leurs larmes, tu les envoyais pleurer devant moi, qu'ils ne m'attendraient jamais, je les façonnerais bientôt aux joues qu'elles doivent porter, et je lasserais leur humeur impérieuse et indépendante. Enlevée dès l'âge de 15 ans au fond de l'Afrique, ma patrie, je fus d'abord vendue à un maître qui avait plus de 20 femmes ou concubines. Ayant jugé à mon air grave et taciturne que j'étais propre au sérail, il ordonna que l'on achevât de me rendre telle, et me fit faire une opération pénible dans les commencements, mais qui me fut heureuse dans la suite, parce qu'elle m'approcha de l'oreille et de la confiance de mes maîtres. J'entrai dans ce sérail qui fut pour moi un nouveau monde. Le premier eunuque, l'homme le plus sévère que j'ai vu de ma vie, y gouvernait avec un empire absolu. On n'y entendait parler ni de division ni de querelle. Un silence profond régnait partout. Toutes ces femmes étaient couchées à la même heure, d'un bout de l'année à l'autre, et levées à la même heure. Elles entraient dans le bain tour à tour. Elles en sortaient au moindre signe que nous leur en faisions. Le reste du temps, elles étaient presque toujours enfermées dans leur chambre. Il avait une règle qui était de les faire tenir dans une grande propreté, et il avait pour cela des attentions inexprimables. Le moindre refus d'obéir était puni sans miséricorde. « Je suis, disait-il, esclave, mais je le suis d'un homme qui est votre maître et le mien, et juge du pouvoir qu'il m'a donné sur vous. C'est lui qui vous châtie, et non pas moi, qui ne fait que prêter ma main. » Ces femmes n'entraient jamais dans la chambre de mon maître qu'elles n'y fussent appelées. Elles recevaient cette grâce avec joie et s'envoyaient privées sans se plaindre. Enfin, moi, qui étais le dernier des noirs dans ce sérail tranquille, j'étais 1000 fois plus respecté que je ne le suis dans le tien, où je les commande tous. Dès que ce grand eunuque eut connu mon génie, il tourna les yeux de mon côté. Il parla de moi à mon maître comme d'un homme capable de travailler selon ses vues et de lui succéder dans le poste qu'il remplissait. Il ne fut point étonné de ma grande jeunesse. Il crut que mon attention me tiendrait lieu d'expérience. Que te dirais-je? je fis tant de progrès dans sa confiance qu'il ne faisait plus difficulté de mettre dans mes mains les clés des lieux terribles qu'il gardait depuis si longtemps. C'est sous ce grand maître que j'appris l'art difficile de commander et que je me formai aux maximes d'un gouvernement inflexible. J'étudiai sous lui le cœur des femmes. Il m'apprit à profiter de leurs faiblesses et à ne point m'étonner de leur hauteur. Souvent, il se plaisait à me les voir conduire jusqu'au dernier retranchement de l'obéissance. Il les faisait ensuite revenir insensiblement et voulait que je parusse pour quelque temps plier moi-même. Mais il fallait le voir dans ces moments où il les trouvait tout près du désespoir, entre les prières et les reproches. Il soutenait leurs larmes sans s'émouvoir et se sentait flatté de cette espèce de triomphe. « Voilà, disait-il d'un air content, comment il faut gouverner les femmes. Leur nombre ne m'embarrasse pas. Je conduirai de même toutes celles de notre grand monarque. Comment un homme peut-il espérer de captiver leur cœur si ses fidèles eunuques n'ont commencé par soumettre leur esprit ?» Il avait non seulement de la fermeté, mais aussi de la pénétration. Il lisait leurs pensées et leurs dissimulations. Leurs gestes étudiés, leurs visages fins, ne lui dérobaient rien. Il savait toutes leurs actions les plus cachées et leurs paroles les plus secrètes. Il se servait des unes pour connaître les autres, et il se plaisait à récompenser la moindre confidence. Comme elles n'abordaient leur mari que lorsqu'elles étaient averties, l'eunuque y appelait qui il voulait et tournait les yeux de son maître sur celle qu'il avait en vue. Et cette distinction était la récompense de quelques secrets révélés. Il avait persuadé à son maître qu'il était du bon ordre qu'il lui laissât ce choix, afin de lui donner une autorité plus grande. Voilà comme on gouvernait, magnifique seigneur, dans un sérail qui était, je crois, le mieux réglé qu'il y eût en Perse. Laisse-moi les mains libres. Permets que je me fasse obéir. 8 jours remettront l'ordre dans le sein de la confusion. C'est ce que ta gloire demande et que ta sûreté exige. De ton sérail d'Ispahan, le 9 de la lune de Rébia 1, 1714. Lettre 65. Usbek à ses femmes, au sérail d'Ispahan. J'apprends que le sérail est dans le désordre et qu'il est rempli de querelles et de divisions intestines. Que vous recommandais-je en partant? Que la paix et la bonne intelligence? Vous me le promîtes. Était-ce pour me tromper? C'est vous qui seriez trompé si je voulais suivre les conseils que me donne le grand eunuque, si je voulais employer mon autorité pour vous faire vivre comme mes exhortations le demandaient de vous. Je ne sais me servir de ces moyens violents que lorsque j'ai tenté tous les autres. Faites donc en votre considération ce que vous n'avez pas voulu faire à la mienne. Le premier eunuque a grand sujet de se plaindre. Il dit que vous n'avez aucun égard pour lui. Comment pouvez-vous accorder cette conduite avec la modestie de votre état? N'est-ce pas à lui que, pendant mon absence, votre vertu est confiée? C'est un trésor sacré dont il est le dépositaire. Mais ces mépris que vous lui témoignez font voir que ceux qui sont chargés de vous faire vivre dans les lois de l'honneur vous sont à charge. Changez donc de conduite, je vous prie, et faites en sorte que je puisse une autre fois rejeter les propositions que l'on me fait contre votre liberté et votre repos, car je voudrais vous faire oublier que je suis votre maître, pour me souvenir seulement que je suis votre époux. De Paris, le 5 de la lune de Chaban, 1714. Lettre 66. Rika à... On s'attache ici beaucoup aux sciences, mais je ne sais si on est fort savant. Celui qui doute de tout comme philosophe n'ose rien nier comme théologien. Cet homme contradictoire est toujours content de lui, pourvu qu'on convienne des qualités. La fureur de la plupart des Français, c'est d'avoir de l'esprit. Et la fureur de ceux qui veulent avoir de l'esprit, c'est de faire des livres. Cependant, il n'y a rien de si mal imaginé. la nature semblait avoir sagement pourvu à ce que les sottises des hommes fussent passagères, et les livres les immortalisent. Un sot devrait être content d'avoir ennuyé tous ceux qui ont vécu avec lui. Il veut encore tourmenter les races futures. Il veut que sa sottise triomphe de l'oubli, dont il aurait pu jouir comme du tombeau. Il veut que la postérité soit informée qu'il a vécu et qu'elle sache à jamais qu'il a été un sot. De tous les auteurs, il n'y en a point que je méprise plus que les compilateurs, qui vont de tous côtés chercher des lambeaux des ouvrages des autres, qu'ils plaquent dans les leurs, comme des pièces de gazon dans un parterre. Ils ne sont point au-dessus de ces ouvriers d'imprimerie qui rangent des caractères, qui, combinés ensemble, font un livre où ils n'ont fourni que la main. Je voudrais qu'on respectât les livres originaux, et il me semble que c'est une espèce de profanation de tirer les pièces qui les composent du sanctuaire où elles sont, pour les exposer à un mépris qu'elles ne méritent point. Quand un homme n'a rien à dire de nouveau, que ne se tait-il ? Qu'a-t-on à faire de ces doubles emplois ? Mais je veux donner un nouvel ordre. Vous êtes un habile homme. Vous venez dans ma bibliothèque et vous mettez en bas les livres qui sont en haut, et en haut ceux qui sont en bas. C'est un beau chef-d'œuvre. Je t'écris sur ce sujet parce que je suis outré d'un livre que je viens de quitter, qui est si gros qu'il semblait contenir la science universelle. Mais il m'a rompu la tête sans m'avoir rien appris. Adieu. De Paris, le 8 de la lune de Chaban, 1714. Lettre 67. Ibn à Usbek, à Paris. Trois vaisseaux sont arrivés ici, sans m'avoir apporté de tes nouvelles. Es-tu malade, ou te plais-tu à m'inquiéter ? Si tu ne m'aimes pas dans un pays où tu n'es lié à rien, que sera-ce au milieu de la Perse et dans le sein de ta famille ? Mais peut-être que je me trompe. Tu es assez aimable pour trouver partout des amis. Le cœur est citoyen de tous les pays. Comment une âme bien faite peut-elle s'empêcher de former des engagements ? Je te l'avoue, je respecte les anciennes amitiés, mais je ne suis pas fâchée d'en faire partout de nouvelles. En quelque pays que j'ai été, j'y ai vécu comme si j'avais dû y passer ma vie. J'ai eu le même empressement pour les gens vertueux, la même compassion, ou plutôt la même tendresse pour les malheureux, la même estime pour ceux que la prospérité n'a point aveuglés. C'est mon caractère, Usbek. Partout où je trouverai des hommes, je me choisirai des amis. Il y a ici un guèbre qui, après toi, a, je crois, la première place dans mon cœur. C'est l'âme de la probité même. Des raisons particulières l'ont obligé de se retirer dans cette ville où il vit tranquillement du produit d'un trafic honnête avec une femme qu'il aime. Sa vie est toute marquée d'actions généreuses, et quoi qu'il cherche la vie obscure, il y a plus d'héroïsme dans son cœur que dans celui des plus grands monarques. Je lui ai parlé mille fois de toi. Je lui montre toutes tes lettres. Je remarque que cela lui fait plaisir, et je vois déjà que tu as un ami qui t'est inconnu. Tu trouveras ici ses principales aventures. Quelque répugnance qu'il eut à les écrire, il n'a pu les refuser à mon amitié, et je les confie à la tienne. Histoire d'Aphéridon et d'Astarte. Je suis né parmi les guèbres, d'une religion qui est peut-être la plus ancienne qui soit au monde. Je fus si malheureux que l'amour me vint avant la raison. J'avais à peine 6 ans, que je ne pouvais vivre qu'avec ma sœur. Mes yeux s'attachaient toujours sur elle, et lorsqu'elle me quittait un moment, elle les retrouvait baignés de larmes. Chaque jour augmentait pas plus mon âge que mon amour. Mon père, étonné d'une si forte sympathie, aurait bien souhaité de nous marier ensemble, selon l'ancien usage des guèbres, introduit par Cambyse. Mais la crainte des Mahométans, sous le joug desquels nous vivons, empêche ceux de notre nation de penser à ces alliances saintes, que notre religion ordonne plutôt qu'elle ne permet, et qui sont des images si naïves de l'union déjà formée par la nature. Mon père, voyant donc qu'il aurait été dangereux de suivre mon inclination et la sienne, résolut d'éteindre une flamme qu'il croyait naissante, mais qui était déjà à son dernier période. Il prétexta un voyage et m'emmena avec lui, laissant ma sœur entre les mains d'une de ses parentes, car ma mère était morte depuis 2 ans. Je ne vous dirai point quel fut le désespoir de cette séparation. J'embrassai ma sœur toute baignée de larmes, mais je n'en versai point, car la douleur m'avait rendue comme insensible. Nous arrivâmes à Tefli, et mon père, ayant confié mon éducation à un de nos parents, m'y laissa et s'en retourna chez lui. Quelque temps après, j'appris que, par le crédit d'un de ses amis, il avait fait entrer ma sœur dans le béram du roi, où elle était au service d'une sultane. Si l'on m'avait appris sa mort, je n'en aurais pas été plus frappé. Car, outre que je n'espérais plus de la revoir, son entrée dans le béram l'avait rendue mahométane, et elle ne pouvait plus, suivant le préjugé de cette religion, me regarder qu'avec horreur. Cependant, ne pouvant plus vivre à Tefli, là de moi-même et de la vie, je retournai à Ispahan. Mes premières paroles furent amères à mon père. Je lui reprochai d'avoir mis sa fille en un lieu où l'on ne peut entrer qu'en changeant de religion. « Vous avez attiré sur votre famille, lui dis-je, la colère de Dieu et du soleil qui vous éclaire. Vous avez plus fait que si vous aviez souillé les éléments, puisque vous avez souillé l'âme de votre fille, qui n'est pas moins pure. J'en mourrai de douleur et d'amour. Mais puisse ma mort être la seule peine que Dieu vous fasse sentir. » À ces mots, je sortis, et pendant 2 ans, je passai ma vie à aller regarder les murailles du béram et considérer le lieu où ma sœur pouvait être, m'exposant tous les jours 1000 fois à être égorgée par les eunuques qui font la ronde autour de ces redoutables lieux. Enfin, mon père mourut, et la sultane que ma sœur servait, la voyant tous les jours croître en beauté, en devint jalouse et la maria avec un eunuque qui la souhaitait avec passion. Par ce moyen, ma sœur sortit du sérail et prit avec son eunuque une maison à Ispahan. Je fus plus de 3 mois sans pouvoir lui parler. L'eunuque, le plus jaloux de tous les hommes, me remettant toujours sous divers prétextes. Enfin, j'entrai dans son béram, et il me lui fit parler au travers d'une jalousie. Des yeux de lynx ne l'auraient pas pu découvrir, tant elle était enveloppée d'habits et de voiles, et je ne la pus reconnaître qu'au son de sa voix. Quelle fut mon émotion quand je me vis si près et si éloigné d'elle! Je me contraignis, car j'étais examiné. Quant à elle, il me parut qu'elle versa quelques larmes. Son mari voulut me faire quelques mauvaises excuses, mais je le traitai comme le dernier des esclaves. Il fut bien embarrassé quand il vit que je parlais à ma sœur une langue qui lui était inconnue. C'était l'ancien persan, qui est notre langue sacrée. « Quoi, ma sœur ? » lui dis-je. « Est-il vrai que vous avez quitté la religion de vos pères ? Je sais qu'en entrant au béram, vous avez dû faire profession du mahométisme. Mais dites-moi, votre cœur a-t-il pu consentir, comme votre bouche, à quitter une religion qui me permet de vous aimer ? Et pour qui la quittez-vous, cette religion qui nous doit être si chère ? Pour un misérable, encore flétri des fers qu'il a portés, qui, s'il était homme, serait le dernier de tous. « Mon frère, dit-elle, cet homme dont vous parlez est mon mari. Il faut que je l'honore, tout indigne qu'il vous paraît. Et je serais aussi la dernière des femmes si... Ah, ma sœur, lui dis-je, vous êtes guèbre. Il n'est ni votre époux, ni ne peut l'être. Si vous êtes fidèle comme vos pères, vous ne devez le regarder que comme un monstre. « Hélas, dit-elle, que cette religion se montre à moi de loin. À peine en savais-je les préceptes qu'il les fallut oublier. Vous voyez que cette langue que je vous parle ne m'est plus familière et que j'ai toutes les peines du monde à m'exprimer. Mais comptez que le souvenir de notre enfance me charme toujours. que depuis ce temps-là, je n'ai eu que de fausses joies, qu'il ne s'est pas passé de jour que je n'ai pensé à vous, que vous avez eu plus de part que vous ne croyez à mon mariage, et que je n'y ai été déterminée que par l'espérance de vous revoir. Mais que ce jour, qui m'a tant coûté, va me coûter encore. Je vous vois tout hors de vous-même. Mon mari frémit de rage et de jalousie. Je ne vous verrai plus. Je vous parle sans doute pour la dernière fois de ma vie. Si cela était, mon frère, elle ne serait pas longue. » À ces mots, elle s'attendrit, et se voyant hors d'état de tenir la conversation, elle me quitta, le plus désolé des hommes. 3 ou 4 jours après, je demandai à voir ma sœur. Le barbare eunuque aurait bien voulu m'en empêcher, mais, outre que ces sortes de maris n'ont pas sur leurs femmes la même autorité que les autres, il aimait si éperdument ma sœur qu'il ne savait rien lui refuser. Je la vis encore, dans le même lieu et sous les mêmes voiles, accompagnée de 2 esclaves, ce qui me fit avoir recours à notre langue particulière. « Ma sœur, lui dis-je, d'où vient que je ne puis vous voir sans me trouver dans une situation affreuse? Les murailles qui vous tiennent enfermés, ces verrous et ces grilles, ces misérables gardiens qui vous observent, me mettent en fureur. Comment avez-vous perdu la douce liberté dont jouissaient vos ancêtres? Votre mère, qui était si chaste, ne donnait à son mari, pour garant de sa vertu, que sa vertu même. Ils vivaient heureux l'un et l'autre, dans une confiance mutuelle, et la simplicité de leurs mœurs était pour eux une richesse plus précieuse 1000 fois que le faux éclat dont vous semblez jouir dans cette maison somptueuse. En perdant votre religion, vous avez perdu votre liberté, votre bonheur et cette précieuse égalité qui fait l'honneur de votre sexe. Mais ce qu'il y a de pis encore, c'est que vous êtes, non pas la femme, car vous ne pouvez l'être, mais l'esclave d'un esclave qui a été dégradé de l'humanité. « Ah, mon frère, dit-elle, respectez mon époux, respectez la religion que j'ai embrassée. Selon cette religion, je n'ai pu vous entendre, ni vous parler sans crime. »« Quoi, ma sœur ? » lui dis-je tout transporté. « Vous la croyez donc véritable, cette religion ?» Ah, dit-elle, qu'il me serait avantageux qu'elle ne le fût pas. Je fais pour elle un trop grand sacrifice pour que je puisse ne la pas croire. Et si mes doutes... » À ces mots, elle se tut. Oui, vos doutes, ma sœur, sont bien fondés, quels qu'ils soient. Qu'attendez-vous d'une religion qui vous rend malheureuse dans ce monde-ci et ne vous laisse point d'espérance pour l'autre? Songez que la nôtre est la plus ancienne qui soit au monde, qu'elle a toujours fleuri dans la Perse et n'a pas d'autre origine que cet empire dont les commencements ne sont point connus, que ce n'est que le hasard qui y a introduit le mahométisme, que cette secte y a été établie non par la voie de la persuasion, mais de la conquête. Si nos princes naturels n'avaient pas été faibles, vous verriez régner encore le culte de ces anciens mages. Transportez-vous dans ces siècles reculés. Tout vous parlera du magisme et rien de la secte mahométante, qui, plusieurs milliers d'années après, n'était pas même dans son enfance. Mais, dit-elle, quand ma religion serait plus moderne que la vôtre, elle est au moins plus pure, puisqu'elle n'adore que Dieu. Au lieu que vous adorez encore le soleil, les étoiles, le feu et même les éléments. Je vois, ma sœur, que vous avez appris parmi les musulmans à calomnier notre sainte religion. Nous n'adorons ni les astres, ni les éléments, et nos pères ne les ont jamais adorés. Jamais ils ne leur ont élevé des temples. Jamais ils ne leur ont offert des sacrifices. Ils leur ont seulement rendu un culte religieux, mais inférieur, comme à des ouvrages et des manifestations de la divinité. Mais, ma sœur, au nom de Dieu qui nous éclaire, recevez ce livre sacré que je vous porte. C'est le livre de notre législateur Zoroastre. Lisez-le sans prévention. Recevez dans votre cœur les rayons de lumière qui vous éclaireront en le lisant. Souvenez-vous de vos pères qui ont si longtemps honoré le soleil dans la ville sainte de Balk. Et enfin, souvenez-vous de moi, qui n'espère de repos, de fortune, de vie que de votre changement. » Je la quittai tout transportée et la laissai seule décider la plus grande affaire que je puisse avoir de ma vie. J'y retournai 2 jours après. Je ne lui parlai point. J'attendis dans le silence l'arrêt de ma vie ou de ma mort. « Vous êtes aimé, mon frère, » me dit-elle, « et par une guèbre. J'ai longtemps combattu. Mais, Dieu, que l'amour lève de difficultés, que je suis soulagée. Je ne crains plus de vous trop aimer. Je puis ne mettre point de borne à mon amour. L'excès même en est légitime. Ah, que ceci convient bien à l'état de mon cœur. Mais vous, qui avez su rompre les chaînes que mon esprit s'était forgées, quand romprez-vous celles qui me lient les mains? Dès ce moment, je me donne à vous. Faites voir, par la promptitude avec laquelle vous m'accepterez, combien ce présent vous est cher. Mon frère, la première fois que je pourrai vous embrasser, je crois que je mourrai dans vos bras. » Je n'exprimerai jamais bien la joie que je sentis à ces paroles. Je me crus et je me vis, en effet, en un instant, le plus heureux de tous les hommes. Je vis presque accomplir tous les désirs que j'avais formés en 25 ans de vie et évanouir tous les chagrins qui me l'avaient rendue si laborieuse. Mais quand je me fus un peu accoutumée à ces douces idées, je trouvai que je n'étais pas si près de mon bonheur que je me l'étais figuré tout à coup, quoique j'eusse surmonté le plus grand de tous les obstacles. Il fallait surprendre la vigilance de ses gardiens. Je n'osais confier à personne le secret de ma vie. Il fallait que nous fissions tout, elle et moi. Si je manquais mon coup, je courais le risque d'être empalée. Mais je ne voyais pas de peine plus cruelle que de la manquer. Nous convînmes qu'elle m'enverrait demander une horloge que son père lui avait laissée et que j'y mettrais dedans une lime pour scier les jalousies d'une fenêtre qui donnait dans la rue et une corde nouée pour descendre, que je ne la verrai plus dorénavant, mais que j'irai toutes les nuits sous cette fenêtre, attendre qu'elle pût exécuter son dessein. Je passai 15 nuits entières sans voir personne, parce qu'elle n'avait pas trouvé le temps favorable. Enfin, la 16e, j'entendis une scie qui travaillait. De temps en temps, l'ouvrage était interrompu, et dans ces intervalles, ma frayeur était inexprimable. Après 1 heure de travail, je la vis qui attachait la corde. Elle se laissa aller et glissa dans mes bras. Je ne connus plus le danger et je restai longtemps sans bouger de là. Je la conduisis hors de la ville où j'avais un cheval tout prêt. Je la mis en croupe derrière moi et m'éloignai avec toute la promptitude imaginable d'un lieu qui pouvait nous être si funeste. Nous arrivâmes avant le jour chez un guèbre, dans un lieu désert où il était retiré, vivant frugalement du travail de ses mains. Nous ne jugeâmes pas à propos de rester chez lui, et, par son conseil, nous entrâmes dans une épaisse forêt, et nous nous mîmes dans le creux d'un vieux chêne, jusqu'à ce que le bruit de notre évasion se fût dissipé. Nous vivions tous deux dans ce séjour écarté, sans témoins, nous répétant sans cesse que nous nous aimerions toujours, attendant l'occasion que quelque prêtre guèbre pût faire la cérémonie du mariage prescrite par nos livres sacrés. « Ma sœur, lui dis-je, que cette union est sainte, la nature nous avait unis, notre sainte loi va nous unir encore. » Enfin, un prêtre vint calmer notre impatience amoureuse. Il fit, dans la maison du paysan, toutes les cérémonies du mariage. Il nous bénit et nous souhaita 1000 fois toute la vigueur de Gustap et la sainteté de Loraspe. Bientôt après, nous quittâmes la Perse, où nous n'étions pas en sûreté, et nous nous retirâmes en Géorgie. Nous y vécûmes 1 an, tous les jours plus charmés l'un de l'autre. Mais comme mon argent allait finir, et que je craignais la misère pour ma sœur, non pas pour moi. Je la quittais pour aller chercher quelque secours chez nos parents. Jamais adieu ne fut plus tendre. Mais mon voyage me fut non seulement inutile, mais funeste. Car, ayant trouvé d'un côté tous nos biens confisqués, de l'autre mes parents presque dans l'impuissance de me secourir, je ne rapportais d'argent précisément que ce qu'il fallait pour mon retour. Mais quel fut mon désespoir! Je ne trouvais plus ma sœur. Quelques jours avant mon arrivée, des Tartares avaient fait une incursion dans la ville où elle était, et comme ils la trouvèrent belle, ils la prirent et la vendirent à des Juifs qui allaient en Turquie, et ne laissèrent qu'une petite fille dont elle était accouchée quelques mois auparavant. Je suivis ces Juifs et les joignis à 3 lieues de là. Mes prières, mes larmes furent vaines. Ils me demandèrent toujours 30 tomans, et ne se relâchèrent jamais d'un seul. Après m'être adressé à tout le monde, avoir imploré la protection des prêtres turcs et chrétiens, je m'adressai à un marchand arménien. Je lui vendis ma fille, et me vendis aussi pour 35 tomans. J'allai aux Juifs, je leur donnai 30 tomans, et portai les 5 autres à ma sœur, que je n'avais pas encore vue. « Vous êtes libre, lui dis-je, ma sœur, et je puis vous embrasser. Voici 5 tomans que je vous porte. J'ai du regret qu'on ne m'ait pas acheté davantage. »«
Quoi ? » dit-elle. « Vous vous êtes vendu ? » ?»«
Oui, lui dis-je. »«
Ah, malheureux ! Qu'avez-vous fait ? N'étais-je pas assez infortuné sans que vous travaillassiez à me le rendre davantage ? Votre liberté me consolait, et votre esclavage va me mettre au tombeau. » « Ah, mon frère, que votre amour est cruel ! Et ma fille, je ne la vois point !»«
Je l'ai vendue aussi, lui dis-je. » Nous fondîmes tous deux en larmes et n'eûmes pas la force de nous rien dire. Enfin, j'allai trouver mon maître, et ma sœur y arriva presque aussitôt que moi. Elle se jeta à ses genoux.
« Je vous demande, dit-elle, la servitude, comme les autres vous demandent la liberté. » « Prenez-moi. Vous me vendrez plus cher que mon mari. »
Ce fut alors qu'il se fit un combat qui arracha les larmes des yeux de mon maître.
« Malheureux, dit-elle, as-tu pensé que je pusse accepter ma liberté aux dépens de la tienne ? Seigneur, vous voyez 2 infortunés qui mourront si vous nous séparez. Je me donne à vous. Payez-moi. Peut-être que cet argent et mes services pourront quelque jour obtenir de vous ce que je n'ose vous demander. Il est de votre intérêt de ne nous point séparer. Comptez que je dispose de sa vie. »
L'Arménien était un homme doux qui fut touché de nos malheurs. « Servez-moi l'un et l'autre avec fidélité et avec zèle, et je vous promets que dans 1 an je vous donnerai votre liberté. Je vois que vous ne méritez ni l'un ni l'autre les malheurs de votre condition. Si, lorsque vous serez libre, vous êtes aussi heureux que vous le méritez, si la fortune vous rit, je suis certain que vous me satisferez de la perte que je souffrirai. » Nous embrassâmes tous 2 ses genoux et le suivîmes dans son voyage. Nous nous soulagions l'un et l'autre dans les travaux de la servitude, et j'étais charmée lorsque j'avais pu faire l'ouvrage qui était tombé à ma sœur. La fin de l'année arriva. Notre maître tint sa parole et nous délivra. Nous retournâmes à Téflis. Là, je trouvai un ancien ami de mon père, qui exerçait avec succès la médecine dans cette ville. Il me prêta quelque argent avec lequel je fis quelques négoces. Quelques affaires m'appelèrent ensuite à Smyrne, où je m'établis. J'y vis depuis 6 ans, et j'y jouis de la plus aimable et de la plus douce société du monde. L'union règne dans ma famille, et je ne changerai pas ma condition pour celle de tous les rois du monde. J'ai été assez heureux pour retrouver le marchand arménien à qui je dois tout, et je lui ai rendu des services signalés. » De Smyrne, le 27 de la lune de Gemadi II, 1714.